RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, les GG sont là, les amis, les GG sont avec vous en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules.
Bonjour à Fatima Hidbounois, notre prof de français.
Bonjour et bonjour les grandes gueules de l'ombre.
Nous sommes avec Antoine Diers, le consultant juridique, le Dunkerquois. Bonjour camarade.
Salut Alain et bonjour à tous.
Et puis Abel Boyi, l'éducateur, nous accompagne aussi aujourd'hui. Bonjour mon cher Abel.
Salut les amis et salutations rapides à Elisha et Sandra qui se reconnaîtront.
On a les gars du canon français tout à l'heure qui sont avec nous. Les gars du canon français, vous savez, ce sont ces banquets à travers la France où on vient chanter, où on vient bien manger, où on vient se réunir. Alors, ils sont accusés d'être racistes, d'être nazis, d'avoir des banquets uniquement pour promouvoir la droite la plus réactionnaire. Ils viendront se défendre tout à l'heure, Giraud de la Tour et Pierre-Alexandre Mortemart de Boisse. Ils seront avec nous à 11h. Ils sont même accusés d'exclure une partie de la population. C'est le reproche que leur fait le recteur de la Grande Mosquée de Paris en disant « Vous faites des banquets avec du cochon, donc ça exclut une partie de la France, ça exclut les musulmans. » Toutes ces critiques...
Il pourrait y avoir un menu poisson.
Ils répondront tout à l'heure. Ou même un banquet uniquement végétarien, parce que mais ça exclut les végans. Ah,
un croustillant poulet peut-être, Olivier.
S'il y a du poulet, moi, j'accours. Ouais. Voilà.
Donc, ils seront avec nous tout à l'heure. En attendant, première heure des GG, première heure des grandes gueules. Est-ce que la génération des trentenaires, c'est la génération papy-mamie qui veut rester à la maison à regarder la télé, l'adolescente qui a été tuée au couteau? On présente le type de 24 ans, son meurtrier présumé, comme étant son... Petit ami.
Son violeur pédocriminel.
Je peux vous dire qu'ici, les grandes gueules sont en colère, Fatima et Abel Boyi. En attendant, je vous propose de réagir au 32-16 sur la prochaine finale de la Ligue des Champions. Attention, non pas pour parler foot, mais pour parler fanzone. C'est ce que veut faire le maire de Paris, réunir des milliers de supporters du Paris Saint-Germain au cœur de la capitale, dans ce que l'on appelle une fanzone. Bonne idée ou pas? De supporters du Paris Saint-Germain ici, la date, elle est cochée, c'est le 30 mai, la finale est à Budapest, mais ici, Paris, on peut vous dire que bien évidemment, les supporters vont essayer de se retrouver dans tous les coins possibles et imaginables.
Il faut se souvenir ce qui s'est passé l'année dernière après la première victoire parisienne, ça avait été un fiasco sécuritaire, puisqu'il y avait eu deux morts en marge des célébrations, à Paris et à Dax. À Dax, un mineur de 17 ans qui avait été tué à l'arme blanche, et à Paris, dans le 15e, c'est un homme à scooter qui avait été percuté vers minuit 45 par une voiture et qui avait succombé à ses blessures. Un policier avait été placé en coma artificiel dans la Manche, après avoir essuyé des tirs de mortier d'artifice. Des magasins avaient été pillés, des vitrines avaient été fracassées, du mobilier urbain avait été cassé. On avait interpellé près de 600 personnes. Voilà, ça c'était la célébration de la victoire il y a un an. Donc là, un an après, on se retrouve avec le même scénario. Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, voudrait une fan zone pour les Parisiens. Le problème, c'est que du côté de la préfecture et des syndicats de police, on dit ah, attention, ce jour-là, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a le concert d'Aya Nakamura au Stade de France. Il y a deux rappeurs qui se produisent également à Bercy et à la Défense. Il y a Roland Garros. Il va falloir gérer le flux de milliers de personnes ce jour-là. Est-ce qu'il faut rajouter une fan zone? L'année dernière, en fait, c'est le Parc des Princes qui avait, puisqu'il n'y avait pas eu de fan zone l'année dernière. Le préfet avait dit non, c'était Nunez. Donc le Parc des Princes avait ouvert ses portes. Est-ce qu'il ne faut pas une fan zone? Est-ce que c'est pas une bonne idée parce que ça permet justement de analyser les gens et les flux plutôt que laisser finalement Paris à ciel ouvert. Et on sait que malgré les interdictions, notamment d'aller sur les champs, il y aura des gens qui voudront y aller.
Qu'est-ce que vous en pensez, fan zone ou pas fan zone?
Moi, je suis pour, mais il faut réouvrir le Parc des Princes, tout simplement, plutôt que de se prendre la tête à chercher une place dans Paris. Et il faut cadenasser, donc je peux comprendre que pour les policiers ça fasse du travail supplémentaire, mais ça reste un moment exceptionel, la possibilité de gagner une deuxième Champions League. On ouvre le Parc des Princes, on cadenasse la ville. Malheureusement, il faut le faire parce qu'il y a toujours une minorité délinquante qui est là pour se manifester et juste pour casser, en fait, et pour mettre le bordel à la fin. On ouvre le Parc des Princes, on fait la fête, on met du bleu partout. et dans Paris, et aussi dans la première couronne de l'Île-de-France pour gérer les flux. Et je pense que ça peut bien se passer, surtout si on prend l'enseignement de ce qui s'est passé l'année dernière.
Est-ce qu'on ne doit pas justement prendre l'enseignement surtout de ce qui s'est passé pendant les JO où il y avait je ne sais plus combien de policiers dans Paris et finalement il n'y a eu aucun problème d'insécurité. Il faut mettre les moyens.
Antoine Diers.
Pardon, il y a une question de moyens, il y a aussi une question d'approche de notre ministre de l'Intérieur qui évoque là quelques débordements sur ce qui s'est passé il y a 48 heures. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur. Quelques débordements alors qu'on a 127 interpellés, 23 policiers blessés, qu'on a tous vu les images de cette personne qui se fait retourner sa voiture par des casseurs sur la place de la Concorde. Il est dans la bagnole, là, encore. On a aussi vu cette voiture de police qui recule, attaquée par des supporters casseurs. Laurent Nunes nous dit juste quelques débordements. Moi, je suis tout à fait pour une fan zone, à condition qu'on explique que, ok, ce sera à cet endroit qu'on a le droit de faire la fête, et on fait la fête proprement, et en revanche, tout débordement, comme dit le ministre de l'Intérieur, qui aura lieu ailleurs, dans Paris, sera fermement réprimé. Mais je voudrais et je ne veux plus voir ces images de policiers qui reculent, qui se laissent déborder. Et donc, ok, fan zone, mais par pitié que le ministre de l'Intérieur.
C'est aux Champs-Élysées, par exemple. Ferme les grands bouffons. On est obligé.
Je voudrais qu'on fasse peur aux casseurs. C'est-à-dire que
tu crois que Laurent Nunez il fait peur aux casseurs.
Mais justement non. Il a dit quelques débordements et c'est pour ça que c'est écrit d'avance. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce qu'on n'a pas de répression. Et moi, j'espérais. J'espère encore qu'un jour, le casseur, celui qui casse des trucs, on lui rentre dans le lard, on le défonce sur place.
Ah oui, carrément.
Évidemment, il n'y a que ça. Mais pardon Olivier, nous en France, on a une stratégie de maintien de l'ordre très propre. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de blessés.
Ah, tu peux le retour du sac.
Non, parce qu'on dit souvent, je termine. C'est des dégâts matériels et son père.
Voilà, c'est tellement propre, il n'y a jamais de blessés qu'en fait tu te dis, je peux y aller. Et on voit débarquer tous ces jeunes de banlieue là sur toutes les images et c'est une fête. Oh, on retourne des voitures. Oh, on tape la police. C'est une espèce de fête. C'est un sport parce que ça n'a pas de conséquences. Il faut qu'on dise demain. Tu fais ça, tu vas te prendre un coup de matraque. Les voitures de police vont te rentrer dedans, etc. Et là, on aura moins de problèmes.
Aujourd'hui, ça n'a pas de conséquences. Des blessés,
tu prends ce risque-là.
Ce qu'on cherche.
Mais évidemment que je souhaite pas la mort de qui que ce soit.
Les voitures de police, en fait, rentrent dans les jeunes.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que tant qu'il y aura pas de conséquences à casser comme ça, il y a ni conséquences pénales, ni conséquences physiques pour eux. Ils continueront.
Fatima.
Et tant qu'on dira pas, bim, on va vous rentrer dedans, on aura toujours les mêmes images.
Alors sur la fan zone, moi je trouve qu'une zone restreinte est plus contrôlable et plus gérable que des rassemblements sauvages un peu partout. Donc je suis pour, je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Abel sur le Parc des Princes. On ouvre, on peut contrôler. Là on a la chance de
L'année dernière il y avait le Parc des Princes et ça a été un fiasco. Sécuritaire, pas au Parc des Princes, mais ça n'a pas empêché la casse, etc.
Avec un discours clair. Hein, c'est-à-dire l'idée d'anticiper,
ça change pas quelque chose, hein,
d'encadrer, de contrôler, de dire oui à la liesse, il n'y a pas de problème, non à la casse, d'une façon très, très claire. Oui, tu as dit que pour les JO, exactement comme pour les JO, où ils se sont donné les moyens, parce qu'ils se sentaient regardés aussi. Mais pour les JO, c'était. Vous rendez compte, ça, quand même.
J'ai jamais vu autant de policiers à Paris.
Oui, et
jamais de ma vie.
C'est pas tout à fait le même public de supporters, pardon, entre les JO et les jeunes, les hordes de jeunes de banlieue qui descendent pour le PSG, c'est pas les mêmes.
C'est-à-dire que la médaille d'or pour le judo, c'est pas la même célébration.
Non, mais parmi les supporters du PSG, il n'y a pas que des jeunes de banlieue.
Mais là, ils ne sont pas des supporters. Je parle des casseurs.
Mais les casseurs, ils sont où?
Les casseurs
sont parmi les supporters, pour pas avoir peur de le dire.
Ah non, non.
C'est-à-dire que c'est une minorité.
Parfois, c'est les mêmes.
Tu les retrouves aussi des fois parmi les ultras, mais bien entendu qu'ils sont supporters du Paris Saint-Germain.
Expliquez-moi une chose, parce que d'accord, l'année dernière, il y avait aussi le Parc des Princes. Le problème, c'est que les incidents, c'est pas pendant le match, c'est après. C'est au moment de ce qu'on appelle les célébrations. Donc, une fois que le Parc des Princes est vidé, t'as des incidents partout dans Paris. Donc, ça ne résout pas le problème. Là, je pense que la fan zone ou le Parc des Princes, ça ne résout pas le problème.
Oui, mais on a
le problème, c'est comment on gère l'après, en fait. Dans Paris, où t'as des bandes de jeunes, etc., qui sont très mobiles, qui vont un peu partout. Les flics leur courent après, mais c'est toujours un peu en retard. Et il y a de la casse. On l'a vu un peu,
Le périphérique a pu être envahi, c'est la Bravem qui a réussi à éviter l'envahissement du périph en débarquant à moto et en menaçant, et donc on a préservé
le périph. Sauf que le problème, ce jour-là, il y a un concert en Stade de France, il y a Roland Garros.
Des forces de police qui seront mobilisées de tous les côtés. Est-ce que Laurent Nunez devra dire la veille, écoutez, c'est pas compliqué, tous ceux qui seront en bande, tous ceux qui comprendront, ah bon, on leur rentrera dedans, bah, tu vois, employer un langage un peu martial.
Laurent Nunez, il parle pas comme ça.
Ben oui, mais justement, est-ce que le ministre de l'Intérieur doit avoir un langage martial pour bien faire comprendre ce qui va se passer? Ou
rendez-nous Pasqua.
Effectivement,
on va terroriser les casseurs.
Non, mais c'est pas c'est sûr. Terrorisons les terroristes. C'était Pasqua qui disait ça.
Ah, c'est vrai que Pasqua, il faisait plus peur.
Bah oui.
Mais c'est pas une question de langage, en vrai. Vous croyez qu'une formule, on n'est pas dans la parole performative. Hein, je vais dire, attention, il va se passer ça. C'est une question de politique, de choix politique sur le long terme. C'est-à-dire à chaque fois, on est étonné. Enfin, comment dire, c'est pas la question du match. La dernière fois, je vous avais dit ça. Quel que soit. Qu'on perde, qu'on gagne, qu'il y ait une fête, vous allez vous poser la même question pour le 14 juillet, pour absolument tous les moments, en disant il y a un problème de fond. Donc effectivement, là, ça ne fait que mettre à jour, mettre en lumière des problèmes sécuritaires, des problèmes que les policiers, dont les policiers nous parlent depuis longtemps. C'est surtout ça. Donc on ne va pas le régler du jour au lendemain.
Il n'y a pas de sanctions pour les jeunes casseurs. Ils refont le truc.
On les attrape pas ou on n'attrape pas les bons et puis ensuite il faut prouver la matérialité des faits. Enfin, après il y a quand même des comparutions immédiates. Il y a toujours des comparutions immédiates, mais elles sont restreintes.
Tu sais ce qui se passe, c'est que si tu n'arrêtes pas tout le groupe, si tu n'en arrêtes qu'un, le juge te répond ah non mais il était dans un groupe et on n'a pas tout le groupe donc on va pas le sanctionner lui. Voilà.
Non mais c'est vrai que si le match, si la finale avait lieu à Moscou ou à Alger, il y aurait pas de problème.
Exactement. Mais à Alger.
Alors après le problème, c'est qu'on est dans des pays où effectivement
on est trop tendre.
L'état de droit n'est pas le même.
Ouais, mais toi, auprès de ces jeunes, est-ce qu'ils se passent le mot en disant allez, on va faire la fête à Paris les soirs de match, on sait
le
qu'on peut y aller quoi.
Descendre pour faire la fête, oui, et je pense que
je dis la fête, tu vois ce que je veux dire.
Mais très honnêtement, oui, il y en a qui disent on va aller casser. Si je dis que non, je mens, tu vois, je serais vraiment un éducateur corrompu intellectuellement. Et puis il faut rajouter ceux qui se laissent aller dans l'excitation du moment. Mais ce qui s'est passé l'année dernière, ça a montré une faille de l'État, c'est-à-dire on n'a pas su anticiper les choses. On s'est dit le PSG a gagné, on va laisser les gens aller sur les Champs-Élysées comme Jean-France 98 et ça va bien se passer. Non, on peut le faire et on peut cadenasser la ville.
Mais on peut aussi laisser les Champs-Élysées ouvertes.
Cadenasser la ville.
Bien entendu qu'il faut cadenasser.
On peut laisser les Champs-Élysées ouvertes. Pardon, je fais partie, j'imagine, je ne suis pas le seul autour de la table, de ceux qui étaient sur les Champs-Élysées en
1998.
Au moment de la victoire de Alain et Dépanné. Donc, il n'a pas vécu ce grand moment de fête nationale et spontanément, les gens étaient sur les Champs-Élysées, c'était pas forcément prévu. Tout le monde, il y a eu plus d'un million de personnes sur les Champs-Élysées.
On est en 2026.
Et il y a eu, à part cet automobiliste qui a foncé dans la foule parce qu'elle a paniqué, il n'y a pas eu d'incident. Donc c'est possible. Moi, je pense qu'on peut aller sur les gens.
On a notre ami.
Simplement, il faut bien sécuriser.
La France de 2026, c'est pas la France de 98. Ouais. Dans l'anticipation, c'est pas tout à fait la même chose.
On a notre ami Abdoulaye Kanté, policier, qui est avec nous. Bonjour Abdoulaye.
Il ne dort jamais. Même le 8 mai, il ne dort pas.
Il est déjà là. Il est déjà en train de préparer.
Il est déjà en uniforme d'ailleurs.
Abdoulaye, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter encore des problèmes le 30 mai alors?
Déjà, tout d'abord, éviter de revivre les images de l'année dernière. Et ce qui est avantageux, c'est qu'on sait que ça s'est passé l'année dernière. Donc, du coup, il y aura un gros déploiement, on va dire, des forces en présence, donc, pour vraiment fluidifier au maximum, fluidifier et essayer d'éviter qu'il y ait un amas de personnes qui vont venir avec des mauvaises intentions. Parce que, malheureusement, toujours quand il s'agit d'événements footballistiques, pour fêter une victoire, il faut toujours qu'il y ait de la casse. Donc là, évidemment, la préfecture de police de Paris va mettre en place un gros dispositif donc aux alentours des Champs-Élysées, donc de l'Arc de Triomphe, pour éviter que... Au niveau du Parc des Princes aussi.
Et qu'est-ce que tu penses de mettre à la fois et le Parc des Princes et une fan zone? Est-ce que c'est possible à ton avis ou pas? Est-ce que c'est souhaitable?
Je pense que c'est possible, ouais, c'est possible. Après, il va falloir voir après au dernier moment, parce que ça va se décider au dernier moment pour la mise en place du dispositif. Mais je pense que oui, ici, il y a une fan zone pour que les supporters puissent évidemment suivre cette finale, on va dire, en toute sécurité. Je crois que oui, ça sera quelque chose de nécessaire, oui.
Ouais, il vaut mieux les encadrer. Mais après, c'est comment est-ce que tu fais en sorte qu'il n'y ait pas les débordements? Parce que c'est ça ce que disait Antoine Dier, c'est-à-dire il faut peut-être avoir un langage un peu plus musclé, tu vois.
Déjà, il y aura
des actions plus musclées.
Il y aura de la prévention déjà avant toute chose qui sera mise en amont déjà dans quelques semaines avant l'événement. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, après, je pense qu'on va rentrer dans une espèce de filtrage qui sera très 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 renforcé et aussi protéger le mobilier urbain. On sait que malheureusement, chaque fois sur ces avenues-là, il y a toujours l'utilisation de mobilier urbain pour aller casser.
Les gentils iront dans la fan zone, les familles, les supporters honnêtes, etc. On aura le même problème avec des casseurs qui iront ailleurs. Et j'ai pas le sentiment que on trouve des solutions.
Cher Antoine, ce qui est malheureux, hein, c'est malheureux de dire cela, mais c'est malheureux de dire ça. Je déconseille même des familles d'y aller. Parce que malheureusement,
au Parc des Princes.
Non, pas au Parc des Princes, mais à l'extérieur.
Ça s'est très bien passé au Parc des Princes l'année dernière.
Abdoulaye, je te remercie d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Salut, à bientôt. Abdoulaye. Salut. On a Jules qui nous appelle de Corse. Bonjour, Jules.
Oui, bonjour tout le monde. Donc, écoutez un peu le débat. Je trouve qu'on passe beaucoup à côté du sujet.
C'est quoi le sujet?
Fan zone. Moi, je suis pour. Je suis pour une fan zone pour les supporters. On va pas les punir entre guillemets. Par contre, comme disait Fatima, c'est vraiment autour sur les champs, dans la ville, où il faut mettre les moyens, comme ce fut le cas pendant les JO. Le problème n'est pas la fan zone, c'est pas la fan zone qui va créer du danger, même si bien sûr on n'est jamais à l'abri de voyous qui viennent dans les fan zones. Pour l'instant, on l'a pas vu, hein. À la Coupe du Monde, on l'avait pas vu. Mais vraiment, c'est dans Paris qu'il faut mettre la sécurité. La fan zone, c'est pas ça qui va créer du danger. Et le Parc des Princes, c'est prévu, hein, c'est prévu. Bon, ce sera l'initiative du club, du PSG. Mmh. La fan zone, c'est la mairie. Mais je veux dire, voilà, on va pas punir les supporters parce qu'il y a du danger sur les champs et dans les autres rues de Paris.
Vous avez raison, parce que finalement, moi, Antoine, tu vois, ça donne raison. Si on ne fait rien, ça donne raison aux minoritaires violents. Il faut faire une fan zone. Non, mais il faut que l'État. L'État, la préfecture assume la fan zone et se donne les moyens de sécuriser. Pardon, mais c'est une mission régalienne. Hein. Mais on paye beaucoup d'impôts. C'est leur boulot. Ils font en sorte que les familles puissent aller à la fan zone, les jeunes, ville, les moins jeunes, et que et les problèmes de la sécurité.
Mais cadenasser la ville, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tu mets du bleu partout, Paris et première couronne, parce que c'est là que ça se passe souvent. Donc je suis désolé.
Mais ils viennent pas. C'est pas en première couronne. Ils viennent dans Paris.
Bah oui. Mais après ils repartent.
Ah d'accord. Donc tu mets un cordon sanitaire.
Le problème, c'est pas avant le match. Après, c'est quand ils vont sortir faire la fête parce qu'on va gagner. Qu'est-ce qui va se passer sur les Champs-Élysées? Qu'est-ce qui va se passer Porte de Saint-Cloud? Qu'est-ce qui va se passer dans le 16e, le 8e, Châtelet-Léal, comme tu as dit? Donc, on sait où les jeunes se retrouvent en plus. Ils vont pas place du Panthéon en général. On sait quels sont les points. Donc, tu cadenasses, tu mets du bleu. Et la première couronne, effectivement, Montreuil, Saint-Denis, Vincennes, parce qu'on sait que c'est là que ça va se passer.
Pardon, mais c'est pas parce qu'il y aura beaucoup de policiers. S'ils n'ont pas d'ordre de rentrer dans l'art, ça fait la même chose, hein. Tu peux mettre beaucoup de policiers, ils sont là, mais s'ils ne font pas cesser les troubles, parce qu'ils sont pas soutenus par
la dernière fois,
qu'ils savent qu'il y aura pas de sanctions.
Ouais, mais regarde
pénale.
Ce qui est arrivé à Yann Arthus Bertrand sur la place de la Concorde. Ah, oui. C'était son exposition photo, en plus, sur le vivre ensemble. Ouais. Oui. Les types sont arrivés, ils ont tout pété. Tout pété. Quel est l'intérêt? Comment tu veux raisonner des gens comme ça? Tu veux les interpeller de manière préventive avant qu'ils ne cassent? C'est là où je comprends
non,
pas.
Non, mais là, on est plus au stade de la prévention. Là, c'est la sanction et la répression. Mais s'il y avait eu une présence dissuasive, ils n'auraient pas eu accès.
Il y avait des policiers partout.
Ils
ont joué au chat.
Ils ont pu saccager près de 180 quand même photos. Oui. Les policiers ont laissé faire.
Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on répond, ce n'est que du matériel. Il faudrait surtout pas qu'il y ait un jeune casseur de banlieue qui meurt ou qui soit blessé.
Mais il n'y a pas que des casseurs de banlieue. Toi, tu fais une focale dessus.
Pardon, c'était que ça. Hein. Tu regardes les images, c'est sweat capuche, c'est ce style-là, basket, c'est typé jeune de banlieue. Je suis désolé, faut regarder les choses.
Donc, quand tu es en jogging, tu habites forcément en banlieue.
Bon, il y a Yann Arthus Bertrand qui est avec nous, justement. Bonjour, Yann.
Bonjour.
Merci. Ça va, Yann? Est-ce que vous savez précisément qui a cassé votre exposition photo ou pas?
Place de la Concorde. Sincèrement, ça m'intéresse pas beaucoup. J'étais pas là. J'étais réveillé à 5h du matin. J'ai plutôt essayé de voir comment réparer que de m'occuper qui avait cassé. Voilà.
Et qui est venu vous aider à réparer?
Alors, c'est assez fantastique parce qu'on a fait un appel et en fin de compte, il y a même des supporters du PSG, en tout PSG, qui ont venu nous aider. Il y en a une centaine de personnes qui sont arrivées dans les 2 heures qui suivent. Et cet élan qu'on a vécu, ce positif qu'on a vécu m'a fait oublier un petit peu ce qui s'était passé dans la nuit. Et c'est ça que j'ai envie de voir, en fin de compte. J'ai envie de voir cette solidarité évidente, naturelle, où les gens sont venus. L'exposition s'appelle « Vivre ensemble ». Les gens avaient compris ça, tout simplement. Voilà.
Oui, mais justement, ça s'appelle « Vivre ensemble ». Et là, on a eu une démonstration que c'est compliqué de vivre ensemble.
On le sait bien. On ne va pas le découvrir simplement avec ça. Je pense que c'est l'erreur humaine, c'est une... En fin de compte, j'ai pas du tout envie de... Ça m'intéresse
pas. Vous êtes
pas
trop gentil, là, pardon.
Ouais, ouais, je suis trop gentil. Bah ouais, je préfère être trop gentil qu'être trop con et trop méchant.
Ah bah non. Moi je pense que non mais c'est facile comme réponse. On a un grave problème d'une jeunesse de banlieue délinquante, et si on ne cite pas le problème, on ne le résout pas. Et vous êtes dans une forme d'angélisme.
Je sais bien, mais quand vous montez l'exposition à la Concorde, vous recevez des milliers de gens tous les jours, vous allez à l'essentiel, c'est-à-dire remettre en état l'exposition et recommencer. On a un studio photo, on a des conférences. Ça sert à rien de polémiquer qui a fait ci, qui a
Elle
fait ça.
Elle dure jusqu'à quand l'expo, Yann?
Elle dure encore 3 jours, donc il y a encore plus que 3 jours pour la voir. C'est vraiment une exposition que j'ai fait. Faut pas quand même pas oublier que j'ai photographié 35 000 Français. Et que oui, j'ai vécu pendant ce tournage vraiment des moments magnifiques avec des Français que j'aime, avec des Français.
Vous avez raison, il vaut mieux l'enlever. Il vaut mieux qu'elle s'arrête avant la finale à Ligue des Champions, je pense, Yann.
Non, moi, je suis un optimiste forcené. Hein.
Bah, tant mieux.
Voilà, oui, mais on vous traite de naïf.
Et alors, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai vécu des moments extraordinaires hier, quand tout le monde est arrivé, on a remis l'exposition ensemble. Il y avait une espèce d'enthousiasme, de générosité, d'empathie, de bienveillance extraordinaire. Et ce qui s'est passé avant, j'avais oublié. Bien sûr que tout n'est pas parfait, on ne va pas. On connaît le monde. Mais on a des expos formidables. On est ouvert pendant 4 jours, on a un studio photo, les gens peuvent se faire photographier gratuitement. J'ai Vincent Munier qui vient tout à l'heure, vous avez connu le gars qui a fait la Panthère de Neige, j'appelle des forêts. On a un bal dimanche gratuit, ouvert à tous, un bal populaire. J'ai envie de montrer ça et de vivre ça.
L'optimisme de Yann Arthus-Bertrand. Merci d'avoir été avec nous, Yann Arthus-Bertrand. Merci. On a posé la question à une fan zone en France, une fan zone à Paris pour la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que c'est trop risqué, oui ou non? Vous dites oui, trop risqué à 64%. Allez, suite des GG, dans un instant, on va reparler de la jeune fille de 14 ans qui a été tuée par celui qu'on présente comme étant son ex-copain de 23 ans. Il a lardé de coups de couteau, il avait menacé de tuer toutes ses copines, il les avait appelées.
Et de les violer aussi.
Et de les violer aussi. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG en direct sur RMC et RMC Story, radio et télé, avec Antoine Dierce, Fatima Aïd Bounoua, Abel Bouilly. On va reparler du meurtre terrible de cette adolescente de 14 ans, vous savez, à l'affaire en Tardenois dans l'Aisne. Avec cette histoire qui est présentée comme presque une histoire d'amour qui s'est très mal terminée, vous savez, parce qu'on parle de l'ancien petit ami de 23-24 ans, il était agent de sécurité, et il avait menacé de s'en prendre à la jeune fille, déjà à l'adolescente, et même à ses copines. Écoutez ce témoignage.
On l'appelle, et de là, il commence à nous insulter, il dit « Ouais, moi j'ai un ami qui arrive de Paris avec des armes et tout ». Ah bah moi je dis c'est un fou ce gars, pour nous dire ouais venez là, je vais vous éclater, enfin je vais vous tuer, je vais vous poignarder, machin. Là à dire des trucs comme ça à des gens qu'il connaît pas, à une gamine, ah c'est sûr et certain que c'est lui. Il était jaloux qu'elle se soit remis en couple avec quelqu'un, il a voulu que pour elle et il voulait que Chloé soit que à lui. C'est prémédité, c'était pas possible autrement.
Et c'est Camille, une amie de la victime, qui parle.
Oui, Chloé a été retrouvée sur la voie publique. Elle avait été poignardée plusieurs fois, plusieurs coups de couteau. Elle est décédée avant l'arrivée des secours. Donc très vite, les enquêteurs se sont orientés vers cet homme de 23 ans, présenté comme son ancien petit ami. Il a été interpellé quelques heures plus tard à Soissons. Il a été placé en garde à vue et il a reconnu les faits lorsqu'il a été interrogé. Donc l'enquête est ouverte pour assassinat, donc ça veut dire préméditation. Comme on a entendu le témoignage de Camille, effectivement, il avait été quitté par ce qu'il présente comme sa petite amie. Il lui avait envoyé des messages en disant voilà. « Si je te croise, je te tue ». Et donc, les copines de Chloé étaient au courant de ce qui se passait. Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler de relations entre cet homme de 23 ans et cet ado de 14 ans, puisque depuis la loi du 21 avril 2021, un seuil de non-consentement est fixé à 15 ans. Tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un mineur en deçà de cet âge de 15 ans est automatiquement constitutif de viol, sans qu'il soit nécessaire d'établir la contrainte, la menace ou la surprise. En d'autres termes, aux yeux de la loi, cette relation ne pouvait pas en être une.
Fatima.
Alors, je suis très énervée, mais je vais rester calme, comme ça c'est clair. Tout d'abord, pensez aux parents qui ont perdu leur enfant. Il n'y a pas de mots. Hein, on dit on est orphelin quand on perd nos parents, mais un parent qui perd son enfant, il n'y a pas de mots. Il y a des gens qui proposent parange, l'idée de perdre son enfant. Donc déjà, vraiment, ma compassion, ma pensée pour eux. Ensuite, un gros coup de gueule, aussi médiatiquement, sur tous les journaux, qui ont mis sans guillemets, sans recul, son ex-petit ami. Ce n'est pas un ex-petit ami, c'est un pédocriminel. Et ce n'est pas une histoire d'amour qui finit mal. C'est une histoire de pédocriminel qui choisit des personnes vulnérables, qui choisit une personne manipulable. Mmh. C'est une histoire de pouvoir, de possession, de terreur et qui finit en féminicide. Ensuite, sur le fait, elle voulait le quitter, c'est pour ça, voilà, on justifie. C'est souvent, vous savez, souvent on dit aux femmes victimes de violence, pourquoi t'es pas partie? Parce que très souvent, le passage à l'acte, il est à ce moment-là. Ça veut dire les femmes ne partent pas parce qu'elles ont peur et elles ont légitimement peur parce que le passage à l'acte, il est au moment où la personne dit je vais partir. Donc pesons les mots de la même manière que maintenant on ne dit plus Dieu merci crime passionnel. Pesons les mots pour dire là on a un garçon, un homme d'une vingtaine d'années qui vient choisir une petite fille de 12 ans parce que ça a commencé à 12 ans et qui entretient une relation avec elle jusqu'à 14 ans. C'est pas une relation amoureuse, c'est une relation de prédation. Voilà, et les mots, ce sont ces mots-là et on les connaît, c'est pas nouveau ça. Moi-même quand j'avais 12 ans, 14 ans devant le collège, et moi-même comme professeur devant le collège et on les chassait, il y avait des grands qui venaient, qui avaient 25 ans et qui venaient chercher leur proie facile. Exactement. Comme ça. Ils m'écœurent toutes ces personnes-là.
Tu touches là exactement à la question que je me pose. C'est-à-dire que c'est écœurant, je partage tout ce que tu viens de dire, mais comment aucun adulte n'a pu voir cette histoire,
cette relation,
et il y a plein de jeunes filles qui disent « Ouais, moi aussi, il m'a envoyé des snaps, il me menaçait, etc. » Et aucune réaction. Aucune réaction, ça semble durer depuis.
Peut-être qu'elles n'en ont pas parlé aux adultes.
Et puis elle était amoureuse. Est-ce que les parents étaient au courant? Elle pouvait le cacher aussi.
Est-ce que les parents étaient au courant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelqu'un qui a raté le truc de le dire, de stopper ce truc? Voilà, ça se termine en drame. Mais je comprends pas qu'on laisse s'approcher de jeunes filles un homme de ce type-là qui était plutôt défavorablement connu déjà,
Il avait eu port d'armes illégal.
Voilà,
notamment.
Oui, et puis qui envoie des messages de menaces en fait sur Snapchat. Ça doit déclencher tout de suite.
Oui, mais c'est les parents sont pas au courant.
Les jeunes doivent dire à des adultes quand il se passe des choses comme ça. Pourquoi les jeunes, les collégiens que tu connais, pourquoi ils n'arrivent pas à le dire?
Déjà parce qu'on est aussi dans une société qui a romantisé, on romantise l'inceste, on romantise la pédocriminalité. Ah bon? avec la figure du bad boy par exemple, avec ces figures-là. On a longtemps, même collectivement, quand vous regardez les films, c'est pas seulement dans les années 80, pendant longtemps, il y a eu ce côté l'homme plus âgé. Et donc, effectivement, dans le regard des jeunes filles, elles pouvaient être amoureuses selon elles, sous emprise selon moi. Donc, il y a tout ça qu'il faut aussi collectivement déconstruire et interroger.
Ça leur donne l'impression d'être, entre guillemets,
d'être des vraies femmes, d'être vues par un homme. Donc, elles, de son côté.
Les jeunes filles n'ont pas conscience de ce qui se passe forcément.
Leur cerveau n'est pas fini.
Mais c'est un phénomène, il ne faut pas croire que ça, c'est un cas isolé. Vous savez, à chaque fois que j'ai parlé de pédocriminalité, que j'ai donné des faits, des chiffres, même quand on m'a dit que j'exagérais, ça s'est toujours confirmé derrière. L'âge moyen du pédocriminel en France, on est autour de 25-27 ans.
Et ça a diminué depuis 6 ans, c'est ça.
25-27 ans, c'est fini le temps du mec qui a 60 ans avec sa camionnette, effectivement.
Et son imperméable ou quoi.
Mais il y a les deux.
Ils sont pleins, il y a des groupes, quand on parle des mouvements masculinistes, tout est lié, ils sont pleins. Nous, on a fait péter un groupe sur Telegram il n'y a pas très longtemps, le titre c'était « Il faut que je sois le premier ». C'était que des mecs qui avaient entre 23 et 30 ans, qui ciblait effectivement des filles qui avaient entre 11 et 15 ans. Et c'était exactement, fallait les dévierger. Et après, fallait afficher son tableau de chasse. Moi, cette année ou ces 6 derniers mois, j'ai réussi à dévierger tant de filles. Elle se souviendra de moi toute sa vie. Et à chaque fois qu'on en parle, c'est pour ça que je remercie toujours les GG, on passe pour quelqu'un de complotiste ou autre. Donc ça finit pas toujours pour un. Mais moi, le nombre de jeunes que j'ai qui me disent, ouais, j'ai 24, j'ai 25 ans, je comprends pas pourquoi on me traite de pédo. Et je demande, mais elle a quel âge ta copine? Elle a 12, 13 ans. Et moi-même, je rentre dans le lard de certains gars. Et ils comprennent pas. Ouais, mais je l'aime. Ouais, mais elle est soumise. Elle fait tout ce que je lui dis, parce que tu comprends, les meufs de 20-25 ans aujourd'hui, elles ont trop la gueule. Donc ils ciblent, en fait, ils sont tordus psychologiquement et ils peuvent les manipuler. Pour aller dans ton sens, il y a une enquête qui est citée par le magazine Elle, qui est assez effarante. 90% des filles de 12 à 24 ans ont déjà été victimes de violences conjugales.
Mais oui, imagine.
Oui.
Mais
oui. Même le terme de violence conjugale maintenant.
90%.
Parce que maintenant, on parle de violence conjugale.
C'est une enquête qui avait été réalisée par une association en avant-toute.
Parce qu'on parle d'être en couple et d'être dans un couple violent.
Physiologiquement, elles ont changé. Les adolescentes aujourd'hui de 14 ans, quand tu les regardes, elles n'ont pas le même physique. Moi, je regarde ma photo de classe aujourd'hui de jeunes filles qui ont 13, 14 ans.
Oui, mais
les formes ne sont plus les mêmes. Donc, si tu veux, ça attire, comme tu dis, les prédateurs. Quoi.
Mais ce n'est pas parce que tu as des seins que tu es une femme. Ça veut dire il y a des filles qui ont à 11 ans. Maintenant, on a même des filles qui ont leur puberté à 10 ans. C'est des fois très tôt. Et qui vont avoir une poitrine, des signes. C'est pas parce que t'as de la poitrine à 11 ans que tu es câblée pour être une femme et être traitée comme une femme de 20 ans ou avoir des relations sexuelles. À 11 ans, t'es pas là pour avoir des relations sexuelles. T'es là pour être protégée.
Oui, mais toujours dans la même enquête.
Et même si t'as une poitrine.
Enquête, plus d'une fille sur deux, donc 12-24 ans, s'est sentie obligée d'avoir des relations sexuelles ou d'effectuer certaines pratiques par peur que le partenaire ne la quitte. D'autant plus si le partenaire a 10 ou 15 ans de plus.
Nous, les cas qu'on a, on a vu une fille que des garçons, j'en parle parce que c'est ancien, je parle jamais de cas récent, qui avait été filmée ou qui avait eu des relations sexuelles avec un garçon et qui a filmé, qui a fait chanter et qui l'a obligé, du coup, à faire à d'autres. Donc c'est aussi cet engrenage-là. Et quand on lui demandait, quand après on parlait avec elle, elle s'était sentie obligée parce qu'elle l'aimait et elle ne voulait pas le perdre. Donc il y a toute cette naïveté aussi où elle croit vivre sa plus grande histoire d'amour et lui il est en train de se faire la main sur elle. Ouais. Donc il y a ce décalage aussi mais qui est abject.
Oui, mais
parlons aux enfants, on lève ce tabou-là, parlons aux filles.
Oui, mais là je disais qu'il allait y avoir une cellule psychologique, donc
toutes les amies
que l'on a entendues là, elles vont être auditionnées. Comment est-ce que tu vas leur faire passer le message, de leur dire à 14 ans là, dès que vous voyez quelqu'un de 23 ans approcher, parler, sans qu'elles aient l'impression elles-mêmes d'être des balances, tu vois.
Antoine a
soulevé un point très important et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Le nombre de parents qui encouragent les Sephora Girls là, sur Snapchat, sur TikTok, tu vois des filles de des fois 8, 9, 10 ans qui t'expliquent comment elles mettent 3 heures à se maquiller le matin. Mais je peux te dire que ça va donner dans beaucoup de cas des adolescentes déglinguées. Parce que déjà, elle participe à l'hypersexualisation, pas du corps de la femme, du corps de l'enfant. Donc effectivement, il y a des parents aussi qui loupent le coche de ce côté-là, faut le dire. Quand tu poses la question, comment ça se fait que personne n'a fait remonter ça à un adulte? C'est l'échec du monde adulte. Parce qu'il y a eu un audio aussi où ce gars menaçait une des copines de la victime en disant « je vais te poignarder, je vais te violer ». Et c'est toujours ce type de menace. Hein. Je connais des loubards sur Paris, je connais des racailles sur Paris, je connais des gens armés sur Paris, parce que comme il y a ce fantasme du bad boy, et on dit toujours les mecs du 9-3, les mecs du 9-2, du 9-1 et tout, donc on a loupé cela. Et maintenant, par rapport à la cellule psychologique, ça va pas aider les femmes à aller mieux. Pas du tout. Parce que comme tu dis aujourd'hui, un môme de 15 ans, c'est pas un môme de 15 ans de notre époque. Donc ces jeunes aussi, dans leur tête, ne réalisent pas à quel danger ils et elles s'exposent. Parce que pour beaucoup, quand elles sont manipulées, parce qu'on parle de la perversion narcissique et du contrôle coercitif, ben elles se sentent être des femmes. Ben ouais, t'as vu, j'ai un mec de 25 ans, de 24 ans, avec qui j'ai des rapports sexuels, donc je suis une femme et tout. Donc limite, moi j'étais au lycée, j'avais déjà des amis, on va dire, qui avaient 15-16 ans, qui se vantaient de sortir avec des mecs qui avaient près de 30 ans. Hein. On voyait des BMW arriver à la sortie du bâtiment. Et nous, on était comme des teubés. Parce qu'en fait, les meufs que l'on kiffait, en fait, elles nous voyaient comme des petits-enfants à côté de ces mecs qui avaient des grosses bagnoles et compagnie.
Ça a toujours été le drame de vie à 15 ans.
Voilà, exactement. Et on se prenait des râteaux bêtement parce qu'on avait l'air de bébés à côté. Mais il y avait déjà ce danger pédophile. Pédocriminels. Et c'est la honte de beaucoup de médias français de présenter cela comme un crime passionnel d'un mec amoureux, plus âgé, qui, limite, on va mettre ça dans les chiffres des féminicides comme... Non! Déjà, les féminicides, c'est horrible, mais là, c'est un cas de pédocriminalité. Faut pas avoir peur des mots.
Et que les petites filles fantasment ou que les petites filles même essayent de séduire comme un petit garçon qui va essayer de séduire, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais la responsabilité de l'adulte en face, c'est de mettre un stop, de remettre en place. Ah oui. Moi, si un élève vient, essaye de me séduire, je ne vais pas, je vais mettre un stop.
Donc
parce
tu lui mets
que
une bonne
c'est
note.
Un enfant. Je vais mettre une bonne note. Et je vais lui mettre à zéro. Non, mais je vais lui mettre un stop. Vous voyez, c'est notre responsabilité d'adulte. Donc la question, c'est pas le fantasme
sauf si
de l'enfant
est un peu
ou le désir de l'enfant, c'est l'action de l'adulte craquer. Face à ce désir-là.
10h-20, dans un instant, le on s'en fout pas. La création de ce mouvement Les Jeunes avec François Hollande, les Français qui payent de plus en plus en liquide, un couple condamné lors de sa déclaration fiscale parce qu'il s'est moqué de Brigitte Macron, est-ce qu'on s'en fout ou pas? Vous verrez ce qu'en disent les GG. Antoine Dirce, Fatima Aïd-Bounois et Abel Bouy. Restez avec nous.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules, quelle heure est-il? 10h moins le quart, Fatima Aïd-Bounois, Antoine Dirce, Abel Bouy, voilà nos trois grandes gueules. On a les vacances à vous offrir, c'est pas parce que c'est férié qu'on vous envoie pas en vacances, et ce sont les vacances bel en bras, et c'est dans les 45 clubs et hôtels, et c'est à la mer, à la montagne, à la campagne, et c'est du tout compris premium. Et pour ça, vous envoyez vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS au 732-16, et vous serez pris en main par toute l'équipe bel en bras, juste à penser à ne rien faire. C'est pas beau ça? Les vacances bel en bras, c'est pour vous. Vacances par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Louis Gerbier.
Salut les GG. Salut tout le monde.
Une petite pensée pour Anaïs Inès Sainz.
Enfin, tu dis ça comme si elle allait pas bien.
Elle va mieux que nous.
Elle a juste pris trois jeux. Enfin, un jour. Quoi.
Elle fait le tour des défilés pour l'armistice.
Ah oui, oui. D'accord, très bien. Très
chaque année, elle fait ça, elle y tient. C'est rendre hommage à la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France.
C'est important. Bon, tu parlais de ne rien faire. Eh bien, justement, en parlant de ne rien faire, on va parler de François Hollande, un mouvement baptisé « Les Jeunes avec Hollande » doit être lancé dans les prochains jours autour de l'ancien président de la République. On s'en fout pas, Antoine Dirce.
On s'en fout pas.
Abel Bouy.
On s'en fout pas.
Fatima.
Mais écoutez... une partie de moi s'en fout, mais j'ai envie de le dire, donc j'accepte.
D'accord. Portée par ses proches, cette initiative vise à élargir son assise militante et à structurer ses soutiens, dans la perspective, évidemment, de la présidentielle. Alors moi, j'ai une autre question, Antoine, aussi, mais c'est qui sont-ils, ces jeunes?
C'est les mêmes que les jeunes avec le président Coty, qui ont décidé de relancer l'affaire avec le président François Hollande. Non, je rigole parce que c'est toujours les vieilles recettes. Et moi-même, militant de droite, j'ai fait les jeunes avec Sarkozy. Ah. Et donc, partout, à chaque fois, t'es obligé de créer le mouvement des jeunes. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut arrêter avec les jeunes, les retraités, tous les groupes qu'on est obligé de faire croire qu'il y a du monde? Plus personne n'y croit. Essayer d'inventer un nouveau truc, quoi. Les jeunes avec Hollande, c'est vu mille fois.
Abel.
Alors, François Hollande, pendant sa campagne présidentielle pour 2012, avait dit la chose suivante. Je souhaite n'être jugé que sur une seule chose, à savoir est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012. Donc, il a échoué. Donc, c'est une honte même qu'il pense à revenir. Donc, ces jeunes, je ne sais pas qui ils sont. Peut-être que ce sont ses enfants, ses nièces, ses neveux.
C'est des jeunes qui ne l'ont pas connu. Pardon, mais si, regarde, l'année prochaine, en 2027.
Du diable,
mais
non, qui veut si, de Hollande en France.
Non, mais un jeune de 18-20 ans, il n'aura pas connu François Hollande vraiment au pouvoir. Il était gamin. Il y avait 8-9 ans quand François Hollande a quitté le pouvoir. Mm-hmm. Donc, pour lui, il est neuf, Hollande, quasiment.
Donc, parmi tous les candidats, c'est Hollande qui fait rêver. C'est lui qui incarne la jeunesse. Voilà, quoi.
Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il se présente, à part pour des questions d'ego. Pour
il
moi,
se prépare.
Il devrait. Non, mais arrêtez, il se
pense
prépare.
Ça, voilà.
Il y pense en se rasant.
Écoutez, on arrête.
En s'épilant.
Non, pour moi, son expertise, s'il veut, et si effectivement, on peut avoir envie, s'il veut aider la France, dans ces cas-là, il se met au service d'un autre candidat, il partage son expérience avec quelqu'un d'autre, et là, il est utile. Mais pourquoi il veut se présenter, lui? Mettez votre ego de côté. Le moment est grave.
Parce qu'il est frustré, parce qu'il ne s'est pas représenté.
Rangez vos égos, on pense collectif un petit peu, pensez à la France. Je suis désolée. Moi, j'ai besoin de vrais patriotes. J'ai besoin de vrais patriotes. Ouais. Ben oui, mais c'est un grand mot, c'est un gros mot.
Non, mais lui, il pense à la France.
Ben
non, il pense à la France. Il peut faire mieux pour la France que s'il pense à la France,
qu'il mette son expertise au service de quelqu'un d'autre.
Il veut penser à la France et disparaître de la vie politique. Là, je l'applaudirais.
Vous êtes important. Il veut surtout éviter que la gauche tombe aux mains de Mélenchon. Hein. Il essaye de sauver la social-démocratie.
Rien éviter du tout, ils vont juste émietter la gauche.
Un couple condamné en appel a du sursis pour avoir usurpé l'identité de Brigitte Macron. On s'en fout pas, Fatima.
Ça, c'est incroyable. Non, on s'y intéresse.
Abel.
On s'en fout pas.
Et Antoine.
On s'en fout pas.
Printemps 2024, donc un couple avait faussement indiqué dans leur déclaration d'impôt à la rubrique « Autre personne invalide à charge » Brigitte Macron sous l'identité « Monsieur Trogneux Jean-Michel dit Brigitte ». Évidemment, ça reprend toutes les fake news sur Brigitte Macron et le fait qu'il serait un homme, évidemment. Les magistrats, en première instance, avaient dit il n'y a pas d'usurpation d'identité, mais là, la cour d'appel a condamné ce couple. Fatima, pourquoi tu t'y intéresses?
Mais condamné à la prison avec sursis.
Oui, pardon, prison avec sursis.
C'est ça qui est fou.
Ah là là.
Alors, je m'y intéresse pour trois raisons. La première partie est un peu drôle. Personne à charge émettre les membres du gouvernement. Je suis désolée. Moi, ça me fait rire.
Pourquoi ça t'a fait rire? Développe.
C'est drôle, personnage charge, personne du gouvernement. Par contre, ce que je trouve pas drôle du tout, c'est le côté insultant ou transphobe envers la première dame. Donc ça, voilà. Mais pourquoi ça m'intéresse? Pour deux raisons. 2024, le jugement, 2026, à chaque fois je me dis la lenteur de la justice.
Et encore, là, c'est rapide.
Et deux ans, c'est rapide, la peine. C'est-à-dire que là, on est capable de dégainer de la prison, du sursis, alors qu'il y a d'autres moments où moi, j'attendrai de la prison pour de la pédocriminalité, pour des actes de violence graves, et où les personnes ressortent, où elles n'ont absolument rien. Je ne comprends pas la justice. Vraiment, j'ai un problème. Donc c'est le décalage entre ce que moi, je considère comme gravissime, qui mérite du sursis, de la prison, et puis ça qui mérite sans doute une sanction, mais pour moi ça serait plutôt, je sais pas moi, payer quelque chose, mais pas forcément sursis.
Ah, belle. Voilà.
Bah, t'as tout dit, hein. Bon, après, ce que je trouve dommage toujours par rapport à Madame Macron, et pourtant Dieu sait que je n'apprécie pas son mari en tant que président, je parle pas de la personne, je trouve qu'on en fait quand même un petit peu beaucoup sur ses soupçons complotistes, pour le coup, sur le fait qu'elle serait un homme. Donc au début c'était drôle, mais je pense que c'est vraiment pas évident pour elle, pour sa dignité, et je me mets en fait à la place, si on faisait ça à mon épouse, c'est clair que ça serait assez dangereux. Donc ouais, je pense qu'il faut que ça s'arrête, mais maintenant
donc, il faut sévir.
Ouais, de la prison sévir. Pour le coup du
sursis. Non, mais tu leur mets une grosse amende.
Voilà,
tu vois, c'est vrai qu'on va pas. La justice déjà est en galère financièrement en termes de personnel. Il y a pas de place en prison, donc on va pas perdre du temps. Mais je pense que symboliquement, faut mettre une amende qui va dissuader d'autres personnes de faire la même chose.
Et Antoine,
tout a été dit. Moi, je trouve quand même que c'est jugé très vite. Deux ans, c'est extrêmement rapide.
Deux ans, c'est l'appel.
Avec l'appel, donc il y a eu deux procès.
Moi,
donc effectivement, justice à deux vitesses. Quand tu touches à Brigitte Macron, c'est beaucoup plus rapide, et en même temps. Moi, je trouve que c'est allé beaucoup, beaucoup trop loin. Je te rejoins là-dessus. La pauvre femme, tout le monde me fout sa gueule tout le temps. C'est plus possible, quoi.
Non, mais je pense que deux ans, c'est rapide.
On enchaîne.
Oui, c'est très rapide.
Allez, on va terminer avec un sondage BFM TV. 12% des Français paient davantage en liquide depuis le début de la crise énergétique. Abel, tu t'en fous ou pas?
Oui.
Je m'en fous pas
Antoine.
Du tout.
Moi, je m'y intéresse.
Alors, donc, c'est un sondage Elab. Alain,
et là. Non, très bien. C'est le meilleur institut de sondage sur le marché.
Donc, ce sont les ménages financièrement contraints qui ont davantage recours à l'argent liquide. Ce mode de paiement permet, vous savez, la fameuse enveloppe, vous budgétisez. Antoine, tu penses que.
Alors,
c'est un mauvais signe quand même.
Non, mais j'ai vu ça, j'ai pas vraiment compris le sens.
Je me suis surtout dit.
Oh, mais c'est bon. Tout le monde fait du liquide, tellement tu payes d'impôts, etc. Donc tout le monde se fait payer au black. Il y a de plus en plus de liquide, les artisans, les trucs. Et donc moi, je pense surtout que ça cache ça. Les temps sont durs, tu payes trop d'impôts, donc tu fais du black et tu payes
en liquide. Je vois pas en quoi la crise énergétique doit pousser à payer en liquide.
Mais non, on la connaît la technique quand enfin je sais pas, moi mes parents quand ils m'ont appris à budgéter, bah d'ailleurs je sais toujours pas le faire.
Tu sais ce que
ils te donnent une enveloppe devant
toi.
Ça c'est pour la semaine.
Plutôt que la carte où tu dématérialises et t'as pas forcément
conscience.
Oui. Et tu te dis, tant que l'enveloppe, il y a de l'argent pour cette semaine, c'est bon. Une fois qu'elle est vide, j'arrête. Alors que la carte bleue, tu peux toujours être tenté.
Tu sais, avant, il y avait le panier de course ou le porte-monnaie dans lequel tu faisais très attention à chaque.
En fait, aujourd'hui, t'as ton compte en banque sur ton téléphone.
Non, mais tu vois,
je regarde ce que
je regarde pas.
Moi, tous les jours, je regarde.
Fais très, très attention.
Mais tu peux avoir des alertes en plus.
Finalement, ce que tu fais, ça revient au même de manière digitalisée. C'est ça.
Je comprends alors ce que ça veut dire.
C'est un
Fatima, t'as toujours du liquide sur toi, tu fais attention.
Je trouve ça très intéressant qu'on parle du liquide
minimum
parce qu'on veut
1000 euros,
faire
Fatima,
ah oui, en cash comme ça, dis ça et je vais me faire attaquer en sortant. Je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Non, mais la dématérialisation de tout, moi, me terrifie. L'idée, vous voyez, on voulait même faire disparaître complètement l'argent liquide. Moi, je trouve ça terrifiant. Donc, ça m'intéresse, ce retour de l'argent liquide. Et les gens ont peur. Les gens ont peur même par rapport aux banques et tout ça. Donc, à un moment, on demandait aussi retirer tous de l'argent. J'avais essayé de retirer, mais on te bloque.
La carte ne passait pas.
Allez, dans un instant,
non,
avec les GG.
C'est ton argent, mais c'est comme si c'était pas ton argent. C'est ça qui est terrible.
On va regarder la génération pantouflard, les jeunes. À tout de suite au 32-16.
Ça fait rêver.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.